Et maintenant, on va parler du musée avec vous, Jean-Luc Martinez. Bonjour, vous êtes président directeur du musée du Louvre. Il avait fermé un peu avant les autres musées. Le Louvre, il fera partie des derniers à rouvrir. Le Louvre va donc à nouveau accueillir du public le 6 juillet. On imagine que vous êtes très heureux, Jean-Luc Martinez, de cette ouverture. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? Qu'avez-vous fait et que préparez-vous pour cette ouverture?
Bah d'abord, quand on a fermé mi-mars, c'est aussi un marqueur de l'activité d'un musée comme le Louvre. Donc, plus de 800 œuvres étaient en prêt à l'étranger. Donc, pendant les premières semaines, avec mes collègues à l'étranger, on a sécurisé ces œuvres en termes d'assurance. Voilà, on s'est posé la question aussi. C'est un vrai jeu de chaises musicales à l'échelle planétaire, hein, l'ensemble des musées fermant les uns après les autres. On s'est occupé aussi de toutes nos collaborations à l'étranger, parce qu'au moment où on a fermé, il y avait par exemple des fouilles du Louvre en Égypte, une mission d'études en Corée, voilà. Donc beaucoup de, au fur et à mesure où les aéroports fermaient aussi, il fallait rapatrier les gens. Et puis, il a fallu mettre en place les conditions de surveillance sanitaire de la collection. Le Louvre est un ancien palais qui a 8 siècles d'histoire, et donc du coup on a organisé des rondes pour la sécurisation. Voilà. Donc beaucoup de travail pendant ces mois, et aussi pour préparer l'après, pour préparer déjà l'ouverture, à quelles conditions on pouvait rouvrir.
On a beaucoup parlé d'un Louvre confiné sur Internet avec de nombreux visiteurs. Le site Internet du Louvre a très bien fonctionné, Jean-Luc Martinez, pendant cette période de confinement.
Oui, c'est toujours étonnant parce que voilà, là on a multiplié parfois par 10 le chiffre de fréquentation avec des choses assez simples, hein. On a par exemple mis en ligne une vidéo très bien faite, mais de la salle des Cariatides, qui est une des grandes salles du Louvre de la Renaissance, mm-hmm. hein, la salle de bal des Valois. Et c'est vrai que c'est très beau. Enfin, moi j'aime beaucoup cette salle où sont conservées des sculptures grecques et romaines, et ça a été vu par 1 500 000 personnes dans le monde, enfin, voilà. Ça reste étonnant, vous voyez, que parce que c'est pas évident qu'un musée classique, par son architecture, par ce qu'il conserve aussi, soit si désirable. Voilà. Donc, et ça, c'est assez rassurant que ce beau, il parle à la sensibilité, voilà. C'est vrai que en regardant cette vidéo, on se rend compte du calme aussi, voilà. Et puis, il y a eu aussi un vrai désir de scénarios, de petites histoires qu'on racontait pour le public familial, pour les enfants, etc. Je pense que beaucoup de familles aussi étaient confinées chez elles. Et ça aussi, c'est assez porteur de sens pour l'avenir. On se dit, on a besoin de raconter des histoires.
Justement, que regardaient les familles, alors en dehors des cariatides que vous venez d'évoquer, quels étaient les centres d'intérêt? Parce que ce qui est également intéressant dans le fait d'avoir eu cette période où le Louvre était confiné sur Internet, c'est qu'on peut savoir précisément ce que les gens viennent chercher lorsqu'ils sont seuls face à leur écran.
Ils viennent chercher d'abord des histoires, en effet. Donc il y a toute une série qui a été mise en ligne qui raconte l'histoire du vol de la Joconde, de la découverte de la Vénus de Milo. Vous voyez, et voilà, c'est une manière, par l'histoire, d'aborder donc les collections nationales. Et puis, je pense qu'ils viennent, ils sont venus chercher aussi des images. Il y a une vraie question sur la diffusion de l'image dans les sites internet des musées aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous préparons pour l'année prochaine en 21 la mise en ligne de nos collections. Donc, le fait qu'on puisse accéder librement,
qu'on soit finalement, c'est un peu la réalisation du rêve de Malraux, musée imaginaire.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui les moyens techniques actuels nous permettent de créer ce musée imaginaire. Et vous avez raison d'utiliser ce terme parce que c'est la clé de la fréquentation et de la visite du musée. Un musée, la visite d'un musée, pour moi, elle est réussie s'il y a une forme d'appropriation. Enfin, si visiblement on se constitue ce musée imaginaire personnel, qui est sa propre sélection d'œuvres. Voilà. Et dans les musées, notre travail consiste à essayer de donner cette liberté au public.
Et alors, est-ce que ça va changer la manière dont les musées sont organisés, ce qu'on appelle l'expérience maintenant,
lorsqu'on va dans... Je ne crois pas beaucoup que cette crise sanitaire va changer.
Non, le fait aujourd'hui que ce musée imaginaire il soit accessible, il soit visité, puisque le confinement a, en tout cas, conduit beaucoup de gens à aller sur les sites.
Oui, vous avez raison. Il y a un des plaisirs, d'abord, de l'historien d'art, mais donc de l'étudiant en histoire de l'art, etc., et donc aussi du public, c'est de découvrir en vrai ce qu'il a vu, voilà, parce que les œuvres ne sont pas des images. J'utilisais le mot image tout à l'heure, mais on est surpris parfois et souvent par la matérialité des œuvres, par les dimensions. Ça nous est tous arrivé, hein, donc voilà, de se dire, par exemple, la Joconde est un petit tableau parce que Léonard de Vinci a voulu donc sacraliser la relation personnelle avec cette femme qui est représentée à la dimension humaine. Et les gens sont surpris, parfois déçus, en disant mais c'est aussi petit que ça. Mais voilà, il faut s'approcher de l'œuvre pour se rendre compte en effet de ce que le peintre a voulu. Parce que un artiste crée la relation, il joue avec le spectateur, avec celui qui regarde. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est ce qui va changer. C'est ce plaisir de la découverte en disant, moi j'ai aussi expérimenté avec mes enfants, hein, qui avaient vu telle ou telle sculpture ou telle peinture et qui ont eu le plaisir de la découvrir. Le musée, c'est un lieu aussi où on va retrouver des amis. C'est-à-dire, et les œuvres peuvent être des amis. En tout cas, je pense pour les artistes, pour les gens de musée, bien entendu, mais aussi pour le grand public, c'est de retrouver des amis. De la même manière que là, on était privé de relations sociales, on n'a pas pu voir ses parents ou ses amis, etc. Mais voilà, pour nous, et c'est pour moi un plaisir infini, je voudrais retrouver ces amis-là.
Est-ce qu'on peut faire de la pédagogie autrement, permettre aux personnes qui visitent les musées de se former à l'art ou en tout cas d'apprendre à mieux le comprendre avant, après leur visite grâce à Internet?
Oui, cette révolution, elle est en marche depuis longtemps, mais vous avez raison de dire qu'Internet nous permet d'aborder les choses un peu différemment. C'est-à-dire que mettre en ligne les collections, ça veut dire rendre possible le fait de connaître les collections avant de les voir. Et puis après, ça peut être aussi un approfondissement. On l'a fait, par exemple, pour l'exposition Léonard de Vinci, où avant la visite, comme les gens la réservation était obligatoire, on envoyait, par exemple, des textes, etc., aux gens qui avaient réservé pour préparer leur visite, et où on l'a fait après leur visite. Et là, avec Pathé, par exemple, on a fait un film sur la visite voilà, qui va sortir en septembre au cinéma. Mm-hmm. Donc, c'est une autre manière aussi, donc, de rendre, de prolonger cette visite et de la rendre plus accessible aussi, parce que même si cette exposition a été vue par plus d'un million
de personnes. Ça a été un formidable succès, cette exposition.
Ah ben, c'est Léonard, c'est le Louvre, donc, voilà. On s'attendait pas à un tel succès, hein, faut être honnête. Mais je suis très heureux aussi, là, que la peinture ancienne redevienne à la mode. Voilà. Donc,
est-ce qu'elle était passée de mode ?
Il y a eu un moment sain, nécessaire, dans l'art du XXe siècle, où on a détourné et on a voulu aussi faire table rase du passé. Donc, voilà. Et c'est toujours sain dans la production contemporaine aussi, de cette distanciation avec l'art contemporain, avec l'art ancien. Mais, voilà.
Est-ce que c'est l'art ancien qui est à nouveau à la mode ou est-ce que c'est... précisément Vinci qui lui...
Vous avez raison de nuancer, c'est Vinci qui parle à la sensibilité contemporaine, parce que c'est un artiste rare, parce que c'est un artiste qui a cherché quelque chose dans la représentation de l'homme, voilà, donc c'est cet artiste-là qui...
Mais si on compare avec d'autres grandes expositions, je pense par exemple à l'exposition Van Eyck qui a eu lieu à Gand, alors là aussi c'est une exposition qui a été frappée par la pandémie et qui du coup a dû fermer de manière... prématuré, mais si on compare là aussi l'engouement du public pour ce type d'exposition.
Je pense que malheureusement, Van Eyck n'a pas pu rencontrer son public en raison de la crise, mais je vous assure que quand on rencontre la peinture de Van Eyck, hein, je veux dire, le choc esthétique est là. Hein, donc cette peinture de la réalité de la fin de l'époque gothique, elle parle beaucoup, beaucoup à notre sensibilité. Je veux dire, aller à Gand voir ce polyptyque.
Ah oui, parce qu'on peut voir la retable.
C'est une chose extraordinaire, extraordinaire. Ça reste un choc esthétique énorme. Donc, malheureusement, il y a aussi des circonstances. Hein. Actuellement, l'exposition Raphaël, par exemple, aussi, elle a été frappée de. C'est une magnifique exposition avec des œuvres étonnantes.
Mais alors, comme toujours, il y a eu des polémiques au sujet de ces grandes expositions sur le fait qu'elles attiraient évidemment beaucoup de monde et que par conséquent, il était parfois compliqué de voir les œuvres. Et puis, également, du fait qu'il était difficile d'imaginer des suites à des expositions aussi monumentales. Qu'en pensez-vous, Jean-Luc Martinez, vous qui dirigez le musée du Louvre?
Je crois que ces expositions, ces grandes expositions, elles s'expliquent, elles ont une histoire particulière, vous voyez. Donc, c'est pas si ancien que ça, hein, le phénomène des expositions. Hein. Donc, ça a 70 ans, hein, pas plus. Hein. Dans les années 30, on faisait très, très peu d'expositions. Donc, il y a eu un moment, dans les années 80, où on a réussi à rassembler tout l'œuvre d'un peintre ou d'un artiste. Voilà, c'était une étape nécessaire. Aujourd'hui, ça, c'est plutôt derrière nous. Aujourd'hui, en effet, à l'exception des grandes rétrospectives que vous venez d'évoquer pour le 500e anniversaire de la mort de Léonard ou de Raphaël, par exemple, donc aujourd'hui, les sujets sont plus resserrés. Et vous voyez, on fait par exemple des expositions sur le dernier Rembrandt, voilà, sur une partie de l'œuvre. Voilà, bon, le public est aussi plus exigeant. Donc, ce qui est devant nous, c'est plutôt ça, des expositions voilà resserrées avec peut-être moins d'œuvres pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons scientifiques. Hein. Aujourd'hui, on approfondit. Par exemple, nous, on n'a pas fait une exposition Vermeer, on a fait une exposition sur Vermeer et le genre de la peinture de genre.
Vous voyez, ça veut dire qu'il faut les thématiser, il faut des angles, disent.
Oui, mais c'est aussi parce que la recherche, hein, l'exposition, c'est le fruit d'une recherche scientifique d'abord. Donc, et la recherche scientifique, elle a aussi, il y a aussi des modes, il y a aussi des champs, voilà, et qu'une exposition, elle sert d'abord à faire avancer la recherche et la connaissance d'un artiste.
Mais ces modes, justement, est-ce qu'elles pourraient permettre, à contrario, de redécouvrir, puisque le Louvre ouvre le 6 juillet, est-ce que l'on pourrait en profiter pour découvrir un art qui est peut-être moins à la mode? Je ne sais pas quels sont aujourd'hui les secteurs du Louvre qui sont peut-être moins visités que d'autres et qui mériteraient, selon vous, Jean-Luc Martinez?
Nous cherchons en effet à équilibrer la programmation des expositions, parce que vous avez parlé de Léonard de Vinci, mais l'année dernière, il y avait par exemple une exposition consacrée aux royaumes oubliés que nous avons fait avec le Pergamon Museum de Berlin. Donc c'est le royaume néo-hittite, vous voyez, nous sommes au début du premier millénaire avant Jésus-Christ, à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît bien ces civilisations. Exposition qui était très remarquable. L'année prochaine, en 21, nous commençons une saison consacrée donc à l'archéologie, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution grecque de 1821, donc avec mes collègues de la Pinacothèque. Et nous allons montrer pour la première fois, avec le musée de Khartoum et le Soudan, donc les cultures antiques du Soudan. Donc voilà des civilisations méconnues, et le rôle d'un grand musée comme le Louvre, c'est aussi de défendre et de... Parce que le public touristique nous donne la liberté financière aussi de servir toutes les cultures du monde.
Et surtout des cultures qui aujourd'hui, hélas, sont inaccessibles, alors non seulement pour cause de pandémie, mais aussi pour cause de guerre. Et là, il y a la possibilité au Louvre de voir de véritables trésors.
Tout à fait. Le Louvre, c'est aussi cette question de conservatoire, hein, le fait que des musées comme le Louvre conservent des œuvres, par exemple, qui viennent d'Irak. Hein, le musée du Louvre a été le premier à ouvrir en 1847 un musée d'antiquité assyrienne, à l'époque, en sauvant ces œuvres. C'est une des missions du musée aussi, par ses collaborations. Nous travaillons avec nos collègues irakiens, grâce à l'association Alif, à la restauration du musée de Mossoul. Vous voyez, donc ça a un sens. Nous présentons ces œuvres à Paris, mais nous travaillons aussi avec les pays archéologiques d'où proviennent ces collections pour les aider et aussi pour partager ces collections et la connaissance sur ces collections.
Quelles sont les grandes expositions ou les grands événements que vous préparez actuellement, Jean-Luc Martinez, pour le Louvre?
Alors, il est assez remarquable de voir qu'on a pu, grâce à une forme de solidarité entre collègues et solidarité européenne, donc sauver les expositions pour la rentrée. Donc, une exposition Altdorfer, peintre allemand, un géant de la Renaissance, mais complètement méconnu en France, que nous faisons avec Munich et Vienne, donc voilà, grâce à la solidarité de nos collègues allemands et autrichiens. Et une exposition consacrée à la sculpture italienne de la Renaissance, qui s'appelle Le corps et l'âme, de Donatello à Michel-Ange, que nous avons préparée avec Milan. Mmh. Elle va être montrée à partir d'octobre à Paris, puis à Milan. Donc c'est très symbolique, hein, parce que la Lombardie, la région de Milan, a été la région la première frappée par la pandémie. Et là, grâce à l'énergie, à la volonté aussi, hein, au souhait politique, presque au beau sens du terme, de sauver cette exposition. Nous allons pouvoir montrer, ça permet de clore comme ça notre saison consacrée aux grands maîtres de la Renaissance, donc à commencer avec Léonard de Vinci. Donc très symbolique aussi, parce que souvent on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est que la culture européenne? La culture européenne, elle passe par ce socle de cette période du 15e, 16e siècle où des artistes ont inventé l'Europe. C'est le moment où les artistes voyagent, c'est le moment où on invente un nouveau vocabulaire, une langue qui est propre à la culture européenne.
Bon, mais alors vous devez vous heurter également à un certain nombre de problèmes propres à l'Europe. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la diplomatie des œuvres ou de la difficulté d'avoir cette diplomatie, par exemple, entre la France et l'Italie. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des problèmes qui ont été un peu aplanis? Je vous vois sourire, donc j'imagine que ça...
Non, je souris parce que ces questions seront toujours là. Voilà. Et je dirais aussi, c'est parce que les œuvres d'art, elles parlent, elles ont plusieurs significations, bien entendu. Elles parlent du passé, mais elles parlent aussi du présent et de l'avenir. Donc, une nation peut se construire et construire son image avec des œuvres, voilà, en se revendiquant. Donc, voilà, ces questions, elles seront toujours là. Donc, voilà. Et entre pays, bon, après...
Elles étaient aussi là, auparavant.
Oui. Pardon de vous dire, je ne vais pas faire de parallèle avec ce que nous venons de vivre, mais les Jeux Olympiques de 36, où l'art grec, je suis spécialiste d'art grec, a été instrumentalisé par le régime nazi. Donc, voilà, et c'était difficile de devenir spécialiste de sculpture grecque quand le nazisme avait mis en valeur...
Ça, j'imagine, mais je pensais par exemple aux tensions entre les gouvernements français et italien, pour des raisons évidentes aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années, eh bien, par exemple, cette distinction entre des gouvernements qu'on peut taxer de populisme et d'autres était moins présente. J'imagine que votre quotidien était du coup plus facile, Jean-Luc Martinet.
Je crois
votre vie n'a jamais été facile.
Non, parce que surtout dans un musée d'art ancien, mais je pense que c'est encore plus compliqué dans un musée d'art contemporain. Donc, qui est propriétaire de ces œuvres? Oui. La question, c'est la propriété. Et c'est une mauvaise question. La question, c'est l'accessibilité, c'est d'accéder aux œuvres d'art, c'est pas qui est propriétaire. Et donc, il y a toujours eu cette question-là. Donc, aujourd'hui, prenons le cas de la France, comme pour fâcher personne. Donc, aujourd'hui, le territoire français, ce n'est pas le territoire du Moyen-Âge ou du XVIe siècle. Donc, quand on veut faire une exposition de peinture française et qu'on met Avignon, par exemple, pour prendre là, Avignon, au Moyen-Âge ou au début de la Renaissance, n'est pas territoire français. Donc, voilà. Donc, c'est une question à la fois d'identité culturelle et donc, a priori aussi, voilà, on pourrait rencontrer des difficultés. Donc ces questions ont toujours existé.
Oui, mais alors on pourrait dire aussi que l'art s'est dépolitisé. Quand vous prenez par exemple l'art grec et la symbolique qu'il avait dans les années 30, tout ceci s'est perdu. C'est heureux d'ailleurs, mais il y a moins de connotations politiques. On peut regarder.
Ah bon, vous pensez ?
Je vous pose la question.
Vous pensez, bah, prenons le cas de l'art grec. L'art grec, en effet, peut-être légitimement, ce n'est pas à moi d'en juger, l'État grec moderne actuel considère être l'héritier donc de cette culture.
Oui, ça c'est de la politique, c'est de la politique nationale, mais la symbolique, oui, mais... qui était une symbolique assez lourde, qui était affectée
oui,
à l'art
sûr.
Grec.
Ça c'est derrière nous.
Celle-ci,
ça, c'est, derrière nous. Et ça c'est heureux pour l'art grec.
L'art religieux, on peut regarder l'art religieux aujourd'hui.
La tension existe aussi. Vous savez, une partie des musées de l'ancienne Europe de l'Est, par exemple, sont faits de saisies auprès de l'Église, donc et faites de saisies aussi des famille aristocratique sous les régimes communistes. Aujourd'hui, c'est une question. Donc, certaines de ces familles aristocratiques réclament le retour de ces œuvres et l'Église, parfois, réclame le retour de ces œuvres. Donc, voilà, ces questions, elles existent.
Et puis, il y a aussi la question, et ça, c'est une question extrêmement lourde, la question de la restitution des œuvres qui ont été pillées, dérobées, des œuvres qui doivent revenir. Qu'en pensez-vous, Jean-Luc ?
La seule réponse, doit être une réponse, je dirais, scientifique. C'est-à-dire, en effet, nous avons un devoir de transparence sur la provenance et l'origine des collections. Je pense que ce n'est pas de la vertu de notre part, c'est la base de notre travail scientifique. Quand je parlais tout à l'heure qu'on a une échéance l'année prochaine en 21 en mettant en ligne les collections, ça signifie qu'aujourd'hui, le visiteur, mais aussi le chercheur, n'a pas les moyens de connaître précisément d'où viennent les collections qui sont conservées au musée du Louvre. Donc le premier travail, mais ce travail est aussi entrepris par l'ensemble des musées français, c'est ce travail sur les provenances. Et ça doit être une réponse apaisée à la question justement de l'accessibilité des collections. Comme je vous le disais tout à l'heure, la question c'est pas la propriété, la question c'est rendre accessibles ces collections. Après, il y a plein de moyens de les rendre accessibles, la circulation, les expositions, voilà, la restitution aussi, les biens ne sont pas rentrés dans des conditions légales.
Par exemple, avec l'art égyptien donc, qui est si présent au Louvre, on a entendu différentes choses, qu'il était impossible de restituer ses œuvres, qu'elles étaient françaises, que auquel elle n'était pas correctement mise en valeur.
Ça, c'est pas un argument, ça. Ça, c'est pas un argument. Le seul argument entendable, je pense, c'est dans quelles conditions ces œuvres sont rentrées, et il faut faire l'histoire, et voilà, moi je suis historien de formation, donc je veux dire, l'histoire, elle doit se faire. Et ensuite, c'est la question de l'accès à ces collections. Est-ce que ces collections sont visibles ou est-ce qu'elles ne sont pas visibles? Est-ce qu'elles sont accessibles donc par tout un chacun?
Mais elles pourraient être tout aussi visibles au Caire.
Oui, non, mais je vous dis, après, c'est l'occasion de vous dire que les collections d'art égyptien du musée du Louvre l'ont été par partage de fouilles. donc avec une législation parfaitement légale avec le gouvernement égyptien. C'est-à-dire que s'il y a par exemple un scribe accroupi au musée du Louvre, c'est parce qu'il existe un deuxième scribe accroupi qui était au Caire et que, selon la législation de l'époque, la moitié des collections étaient emportées par le fouilleur et l'autre moitié des collections étaient laissées sur place. Parce que il y a aussi, faut dire aussi, l'investissement financier mais aussi humain qu'ont été aussi les découvertes de ces... Vous savez, moi, par exemple, je suis ancien membre de l'école française d'Athènes. La France, parce que le gouvernement grec l'a demandé, c'est le gouvernement grec qui a demandé à la France de fouiller, par exemple, à Delphes. Moi, j'ai eu l'honneur de fouiller à Delphes. C'est une joie infinie. Je continue à y travailler. Voilà, cette collaboration avec le gouvernement grec, elle a donné des fruits. C'est le musée de Delphes.
C'est la réouverture du musée du Louvre, donc le 6 juillet prochain, Jean-Luc Martinez, vous qui dirigez le musée du Louvre, avec moins de touristes, on imagine?
Oui, parce que nous avons 75% de visiteurs étrangers et beaucoup de visiteurs qui ne viennent pas de la communauté européenne. Hein. Le premier public, c'est reste le public français, hein, tous les ans. Et le deuxième public, c'est les États-Unis. Le troisième, c'est la Chine. Voilà. Donc du coup, bien entendu, vraisemblablement, c'est... ces visiteurs extra-européens ne seront pas là. Donc on aura sans doute entre 70 et 80% de visiteurs en moins. Donc voilà, c'est le moment de venir. Donc,
70, c'est
quand même... Ah oui, c'est mathématique. Hein. Vous prenez
ça va vous poser des problèmes financiers, Jean-Luc Martinez?
Après, c'est l'occasion de rappeler qu'un musée n'a pas de but lucratif. C'est l'occasion de le dire et de le répéter. Donc un musée, c'est d'abord un investissement culturel et éducatif. Donc nous ne... Nous ne sommes pas là pour faire de l'argent. Donc voilà. Pour autant, nous produisons de la valeur financière, hein, donc voilà, avec les visiteurs que nous attirons. Donc il est évident que là, il y a une période financière assez particulière. Nous avons déjà perdu 40 millions d'euros là.
Que dit l'État?
L'État dit qu'il sera à nos côtés pour traverser cette période qui va durer 2 à 3 ans. Hein, donc on a l'expérience de 2001 après les attentats du 11 septembre, la fréquentation du.
Il a fallu 2 ou 3 ans.
Il a fallu 3 ans, très précisément, pour revenir à la fréquentation d'avant 2001. Après les attentats que Paris a connus en 2015, il a fallu 1 an et demi à peu près. Vous voyez, donc bon, on a déjà en 2 décennies, hein, dans les années 2000 puis dans les années 2010, connu aussi ce décrochage de la fréquentation. Mais c'est aussi une magnifique opportunité pour le public français, le public de proximité européen, de retrouver le Louvre. Voilà, si ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu voir, parce qu'un musée, c'est aussi des restaurations, c'est aussi de nouvelles acquisitions. Voilà, venez voir ce nouveau Louvre.
C'est effectivement une opportunité qui ne se refuse pas. On va avoir la possibilité de voir, de revoir les collections du Louvre. Donc le 6 juillet prochain, il faut réserver, je crois.
Il faut réserver, donc en effet, sur le site internet du musée, mais aussi chez beaucoup de revendeurs. Je ne citerai pas de...
On a la possibilité donc de voir et revoir le Louvre.